Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle visite radiophonique, la dernière de cette année 2022-2023, avec Nelly Lafont, chef de projet au Pays d'Art et d'Histoire Mandelotte en Gévaudan. Bonjour Nelly.
Salut.
Et Caroline Intrègue du Conseil de l'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Lozère. Salut Caro.
Bonjour.
Alors sous le soleil, en cette période pré-estivale, vous allez m'amener où les filles ?
Ben, on avait annoncé la dernière fois, on t'amène dans le Val d'Aunès, mais pour une visite un petit peu particulière, puisqu'on va parler de patrimoine matériel, mais aussi immatériel. Et on va essayer d'amener de l'eau à ton moulin.
Et pour cette visite, nous ne serons pas seuls, nous aurons des guests.
Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mandelotte en Gévaudan et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Lozère.
Voilà, on est arrivé, très peu de route. On est arrivé où, Caro ?
Donc on est ici dans la vallée de la Nise, qui est juste à côté de nous, mais qu'on ne voit pas puisqu'elle est cachée par sa ripisylve, donc les arbres. Nous sommes le long de l'ancienne voie qui relie Roufiac à Villeneuve, qui est plus au sud là-bas. Et donc c'était la voie avant l'apparition de la RN, que l'on entend un peu en fond derrière nous. On est au pied du truc de Balduc et on est au sud du Cosdemande. Derrière nous, on voit un très beau verger. Donc on est ici dans une vallée très fertile, où on retrouve des fruitiers, des céréales. D'ailleurs, au 19e, cette vallée du Val d'Aunès était très réputée pour la production de froment. Et nous sommes donc sur la commune de Saint-Bauzile, dont Monsieur le maire est présent pour la présenter aujourd'hui.
Oui, Monsieur le maire qui est avec nous aujourd'hui, Didier Couder. Donc je vous laisse présenter votre commune.
Oui, donc la commune de Saint-Bauzile, donc c'est une commune rurale de 626 habitants, aux portes donc de Mende. On fait partie de la communauté commune Cœur de Lozère. Et c'est une commune qui est composée donc à une certaine étendue, puisqu'en fait une partie de la commune se trouve sur le Cos. Et on a donc 6 hameaux, donc 6 petits villages. Majoritairement, donc effectivement, c'est une commune rurale. Alors comme disait tout à l'heure Caroline, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fruitiers encore. Il y a aussi de l'agriculture, mais raisonnée. Et voilà tout, à peu près ce que je peux vous dire. Quoi.
Et des moulins.
Et des moulins. Donc nous avons 3 moulins. Donc un moulin qui aujourd'hui qui peut être effectivement en activité et 2 autres moulins qui il y a un autre petit moulin sur mais ça je laisserai Daniel vous en parlera qui est pas très loin d'ici donc du moulin de Sénéré qui est à 5 ou 600 mètres et on a un ancien moulin aussi à Roufiac. Alors les moulins à l'époque c'était quand même faut savoir quelque chose de très important pour les administrés mais pour les communes aussi environnantes pour la bonne raison que déjà les administrés amenaient leur blé et récupéraient la farine qui servait effectivement à faire le pain mais aussi à nourriture animale donc et pour vous dire si c'était les meuniers qu'on appelait à l'époque étaient déjà très importants. Moi le papa de Daniel, on l'appelait pas Monsieur Henri Vitrolles, on l'appelait le meunier. Et dans le Val d'Aunès, quand on parlait du meunier, on savait qui c'était, on savait que c'était Monsieur Henri Vitrolles. Et Daniel, j'ai toujours entendu dire, c'était le fils du meunier.
Oui, pour rebondir sur ce que disait Monsieur Couder, donc effectivement, on est au moulin de Sénaré, un moulin familial qui s'est perpétué en fait de famille en famille, de génération en génération. Donc il est dans la famille Vitrolles depuis 1879, donc depuis le 19e siècle. Avant ça, il était dans d'autres familles, mais par mariage, il est toujours resté donc de père en fils ou en gendre ou en fille, et ça depuis X générations. Alors, ce qu'on sait peut-être aussi, ce qu'on peut dire du moulin de Sénaré, c'est qu'il est mentionné dans les textes assez tôt. Hein, il devait être rattaché à la baronnie du Tournel, qui avait donc le mandement de Montialou ici. On voit pas très loin les ruines du château. Malheureusement, comme tout le petit patrimoine, le patrimoine de proximité, on a peu de données historiques hein, sur ce moulin, mais on sait qu'il est mentionné sous le nom de moulin de Sénaré depuis au moins le début du 19e siècle.
Nelly, mais Sénaré, ce n'est pas Barjac ?
Et oui, oui, effectivement, c'est sur la commune de Barjac, le petit hameau de Sénaré, le truc de Sénaré. Et c'est de là que le moulin tirerait son nom. Alors peut-être Daniel va pouvoir nous en parler, mais effectivement, selon la tradition, un ouvrier agricole serait venu ici et serait venu de Sénaré travailler ici pour remplacer le meunier absent sur une longue période.
Et à ce moment-là, il faisait des tournées à cheval, évidemment, et des charrettes pour, dans tout le Val-d'Aunès pour distribuer la farine et ramasser le grain. Et apparemment, ce devait être une sacrée personnalité, ce monsieur, parce que il faisait des tournées en alternance avec ceux de l'autre de Rouffiac, le moulin de Fontibus, en alternance avec les moulins de Brenousse et de Langlade. Et celui-là, je ne sais pas s'il avait belle prestance ou s'il avait séduit plusieurs bergères, mais en tout cas, il est resté comme la tournée de Sénaré.
C'est pour ça qu'il y a un très beau four à pain à Sénaré, ou ça n'a aucun rapport ?
Rien à voir. Rien à voir.
Et pour ne pas confondre non plus avec, et ça arrive encore assez souvent, avec le Sénaré, le moulin de Sénaré de Saint-Chély-du-Tarn, qui est peut-être, dont la dénomination est sûrement antérieure à celui-ci, mais qui, en tant que moulin, est peut-être postérieur, parce que celui-là, il date quand même, comme disait Nelly tout à l'heure, de la baronnie de Retz, de Montialous. Puisqu'il y a des papiers où en 1711 il est mentionné comme moulin appartenant au baron de Montialous.
Et donc pour terminer, juste une petite date, donc on sait que le moulin de Sénat, que le moulin de Saint-Bosile et donc de Sénaré porte ce nom depuis au moins 1862, puisqu'il est mentionné sous ce nom-là dans la monographie de l'instituteur, la monographie communale de 1862, et il est indiqué qu'à ce moment-là, il n'y a qu'une seule maison, donc à Sénaré, avec 4 habitants.
Voilà, on s'approche un peu du moulin. Caro, là, on a parlé de 3 moulins ici sur cette vallée. Il y a beaucoup de moulins en Lozère ?
Oui, il y a de nombreux moulins en Lozère. Manélie nous en parlera tout à l'heure. Ils sont souvent de deux types pour les moulins à eau, parce qu'il y avait également des moulins à vent. On a les moulins à roue qu'on appelle horizontales, où la roue est en fait allongée et l'eau lui vient sur le côté. Et on a également les moulins à roue verticales, que l'on verra et qui fonctionnent ici très bien, qui est la roue est de manière verticale et l'eau vient chuter dessus, entraînant le mouvement. Mais ce qui pose un peu plus de complexité sur la mécanique pour broyer les céréales.
Pourquoi ces deux types de roues ? C'est par rapport au lieu, c'est par rapport à la période ? Qu'est-ce qui différencie le vertical de l'horizontal ?
C'est surtout le débit de l'eau. Les endroits où il y a très peu de débit, ce sont des roues horizontales. D'ailleurs, les tout petits moulins du Mont-Lozère, vers la Vialas, Gourdouze par là-haut, ce sont des Finiels, ce sont des tout petits moulins. 3 mètres sur 3 mètres avec une seule meule bien souvent et une roue horizontale qui s'appelle rodette. L'eau tombe dessus effectivement et n'a pas besoin d'avoir un gros volume d'eau pour tourner. Alors qu'une roue verticale, comme ici dans les pays de montagne où l'eau arrive par-dessus, il faut un volume important pour pouvoir stocker de l'eau pour la faire passer par-dessus. Alors, il existe des moulins dans des endroits de plaine. La plus emblématique des exemples, c'est l'île Sursorgue, où les moulins à roue verticale prennent l'eau par-dessous. Parce que là, il n'y a pas de chute, et donc c'est le courant qui fait tourner la roue verticale. Alors qu'ici, c'est le poids de l'eau qui remplit les aubes de la roue hydraulique et qui, par le poids de l'eau, entraîne le mouvement de la roue.
On va aller visiter le système après. Nelly, est-ce qu'on avait une idée du nombre de moulins ?
Alors, on a un inventaire qui a été fait, l'inventaire national réalisé en 1809 à la demande de Napoléon Ier. Donc, c'est un inventaire qui lance pour s'assurer des réserves de nourriture dans les départements. Et on sait qu'en 1809, la Lozère est dotée de 1268 unités. Ça veut dire que la Lozère est à ce moment-là, elle affiche la plus forte, la plus grande densité de moulins en France avec un moulin pour 100 habitants. Alors pourquoi ? Parce qu'on est le pays des sources et que donc, voilà, évidemment, nos torrents de montagne et tous nos cours d'eau permettent l'implantation de moulins à eau principalement et essentiellement. Hein. Les moulins à vent, on en a sur l'inventaire, il me semble que deux, de mentionner à ce moment-là.
En fait, il en existait 4 ou 5. Et le plus emblématique de moulin, c'est celui qui a été reconstruit sur la commune de La Parade, le moulin de la Borie, qui était un des quelques moulins avant sur le Causse-Méjean, et qui a été reconstruit presque entièrement, puisqu'il ne restait que 2 mètres ou 2 mètres 50 de mur, il y a 5 ou 6 ans, avec une filière complète d'agriculteurs, meuniers et boulangers qui sont partie prenante de cette aventure.
Ils sont répartis équitablement sur l'ensemble du territoire, Nelly ?
Oui, parce qu'on est, enfin, évidemment, dans la vallée du Lot, on en a énormément. On va en retrouver beaucoup plus dans les vallées. Mais on a un territoire qui est complètement irrigué par plus de 1000 sources. Donc oui, il y a des moulins à peu près partout, hein, ça évidemment. Peut-être que ce qu'on peut rajouter, c'est que donc, l'âge d'or des moulins, c'est le 19e siècle. Et on va voir que ces moulins, d'ailleurs on en voit beaucoup, qui marquent encore le paysage. On a ces petites constructions dans des champs voilà, cachés au creux des vallées. Donc l'âge d'or des moulins, 19e siècle, et puis ils vont péricliter au 20e siècle avec l'ère industrielle, évidemment. Très très peu de moulins vont passer cette étape en Lozère. On a quasiment pas de minoterie en Lozère.
On sait combien il y en a encore en activité, entre guillemets, qui tiennent debout ou pas du tout ?
En activité pour faire de la farine, il y en a quelques-uns, je pense une quinzaine à peu près. De moulins capables de retravailler, il y en a quelques-uns de plus quand même. Je ne sais pas combien, mais bon, on peut peut-être estimer à une cinquantaine. Et puis malheureusement, beaucoup de ruines. Quelques-uns qui ont été transformés en résidences secondaires, plus ou moins bien. Mais hélas, beaucoup de ruines, et alors que ce sont des véritables patrimoines. Les moulins sont le troisième patrimoine de France, après les églises et les châteaux. Et pendant très longtemps, comme disait Nelly tout à l'heure, au 19e siècle, mais même avant, les moulins étaient quelque chose de très très important dans les campagnes, parce que la principale nourriture des gens, c'était le pain et le cochon, parce que chacun élevait un cochon, et pour élever le cochon, il fallait de la farine, et pour faire du pain, il fallait de la farine. Donc le moulin était un élément essentiel de la commune, au même titre, à certains moments, que le bistrot et que l'église.
Ouais, effectivement, comme le disait Monsieur Coudert en introduction et comme le dit Daniel, le moulin et le meunier a un rôle vraiment économique, évidemment, mais aussi social, qui est très important. Il fait aussi le lien aussi avec tous les habitants, puisqu'il va faire sa tournée. Donc ça a un rôle très important, surtout dans les territoires ruraux comme ici.
Au niveau architectural, Caro ?
Oui, alors ce qui est intéressant sur ce site, c'est qu'on a en effet la partie moulin, mais également la partie habitation dans le même corps de bâtiment. C'est vrai que sur la plupart des moulins que l'on retrouve en Lozère, on a le moulin et parfois la maison du meunier, mais qui est vraiment dissociée du moulin, physiquement, ou même dissociée spatialement. Elle peut se retrouver, par exemple, dans le village. Donc ici, on a une maison qui est assez typique de la vallée du Lot. Donc on accède à la maison du meunier par ce perron, qui est de facture plus récente, notamment en tuf. Donc on a au premier niveau, la maison du meunier, et sur deux niveaux, une construction sur voûte calcaire, vraiment typique de la vallée du Lot, avec en sous-sol une roue horizontale, et au rez-de-chaussée, la partie vraiment meule et moulin proprement dite. Sur les combles, on le voit ici, le pigeonnier, donc c'est vraiment un élément très repérable de ces constructions de la vallée du Lot. Ce qui est intéressant ici aussi, c'est qu'on voit que l'enduit, on voit cet aspect un peu sableux, qui est vraiment un enduit qui a été très bien conservé, et le badigeon à la chaux, cet encadrement blanc que l'on retrouve sur l'ensemble des meniseries. À côté du pigeonnier, on voit une fenêtre de grenier avec une poulie hein, qui servait à monter le foin et le grain. Et une fenêtre aussi qui menait certainement à un charnier pour conserver la viande. Donc ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure, la viande et le blé. Donc ce bâtiment a subi plusieurs extensions, celle qui est ici sur le côté qui est beaucoup plus récente.
Le pigeonnier, c'est pas propre au moulin ?
Non, le pigeonnier, c'est pas propre au moulin, c'est propre aux constructions ici de la vallée du Lot. Pas de la haute vallée du Lot, mais la partie vallée du Lot calcaire. Les maisons sont souvent ordonnancées avec au milieu ce petit pigeonnier, souvent à quatre pans, que l'on retrouve sur pas mal de constructions, de Chanac jusqu'au Salel.
Voilà, donc on est sur un moulin qui a... On n'est pas sur un moulin, en fait, on est sur trois moulins. On va le voir, Daniel va nous l'expliquer. En fait, on n'a pas ici... qu'une seule sorte de meule et de roue, puisqu'on a une roue verticale et on avait des roues horizontales aussi. Donc Daniel va nous le mettre en route. Alors ce moulin, peut-être pour en dire un mot rapidement, il fonctionnait toute l'année. Actuellement, il n'y a qu'une seule roue hein, qui fonctionne, Daniel, la roue verticale. C'est la roue qui servait pour la farine panifiable, donc la farine pour le pain qu'on pouvait manger, puisqu'on va le voir quand on rentrera dans le moulin, le reste des roues servaient pour la farine animale, notamment, et pour l'huile de noix, on le verra. Peut-être juste dire un mot d'Henri Vitrolles, donc le dernier meunier ici, donc le père de Daniel, qui a donc fait tourner le moulin jusque dans les années 80, Daniel, si je ne me trompe pas. Voilà, à peu près, au moins pour la farine animale.
Oui, pour la farine panifiable, ça s'était arrêté un peu plus tôt, vers 1970 à peu près. Et jusqu'à ce moment-là, d'ailleurs, c'était une particularité peut-être des campagnes. La farine panifiable faisait l'objet de ce qu'on appelait l'échange. C'est-à-dire que le paysan apportait du froment au meunier, une certaine quantité. Le meunier se payait avec une partie du grain, apportait la farine chez le boulanger du choix du paysan, et le boulanger ramenait le pain en fonction de la farine qu'il avait reçue chez le paysan. Donc il n'y avait pas de circulation d'euros ni de francs, mais de... une espèce de troc en quelque sorte. Et ici, donc, ça fonctionnait jusqu'en 1970 à peu près de cette façon-là. Et après, la farine panifiable s'est arrêtée et on a continué à faire de la farine pour les animaux, 15 ou 20 ans de plus à peu près, uniquement pour les animaux.
Ben on va aller voir la roue et la mettre en eau.
Daniel, un beau mécanisme là, qu'on retrouve ici.
À l'intérieur, vous avez donc trois moulins, puisque moulin, ça veut dire l'habitation, et puis ça veut dire aussi les machines qui broient les céréales. Et on a donc celui qui vient de tourner, moulin à roue verticale, avec un engrenage qui renvoie le mouvement de la roue sur l'axe vertical qui supporte la meule qui tourne. Et ici, on a deux autres moulins qui marchaient avec des roues horizontales qui étaient sous nos pieds, qui, pour celle-là, n'existent plus. Pour celle-là, existent, mais très abîmées. J'ai bien l'intention, un jour ou l'autre, de la faire retourner. Et alors, donc, ce moulin qui tournait avec la roue verticale et qu'on vient de faire tourner était le moulin à farine panifiable. Donc vous avez vu, il y a une trémie où on met le grain, les meules, le coffre qui contient les meules où le grain est broyé, et une vis sans fin qui monte la farine et qui passait dans ce tambour qu'on appelle le blutoir, et qui était, la farine était tamisée avec plusieurs granulométries pour faire une farine plus ou moins fine. Celui qui est derrière moi, là, celui-là, c'était le moulin pour les animaux, donc avec la farine qui sortait directement, donc qui n'était pas tamisée, il n'était pas relié à aucun tamisage. Et l'autre, qui tournait avec une roue horizontale, était le moulin à huile. Donc la meule est complètement différente, c'est un cône au lieu d'être une galette. Et celle-là ne broyait pas les céréales, elle les compactait et elle les roulait. On s'en servait essentiellement pour deux opérations, pour faire l'orge perlée. L'orge perlée, quand j'étais jeune, on en mangeait beaucoup en potage. C'est une céréale, l'orge donc, débarrassée simplement de son enveloppe, donc qui n'était pas broyée. Et puis on s'en servait aussi pour faire de l'huile de noix. Il faut savoir qu'à dans les siècles passés, notamment au 19e siècle et jusqu'à la première partie du 20e, entre Rouffiac et la Nuéjol, il y avait sur la petite route, il y avait des noyers tous les 2,50 m de chaque côté. Et donc les gens avaient beaucoup de noix, ramassaient beaucoup de noix, ils les décortiquaient et ils apportaient le cerneau au moulin. On les passait dans ce moulin-là, ça compactait les cerneaux, ça faisait une espèce de pâte très onctueuse. Ensuite, dans tous les moulins qui ont un moulin à huile, il y a une petite cheminée. Avec des poêles à longue manche, on faisait chauffer cette pâte et puis on la pressait et ça faisait de l'huile de noix. Et ce moulin nous servait aussi à beaucoup de choses. On voit une poulie, on voit des poulies et des courroies. Donc quand deux poulies sont reliées par une courroie, quand on fait tourner une poulie, l'autre tourne aussi. Et avec ce moulin, on faisait tourner cette dynamo qui nous servait à faire l'électricité, enfin du moins la lumière, donc l'électricité. La dynamo date de 1930, EDF nous a amené l'électricité en 1956, donc entre-temps et même encore après, parce qu'EDF était en 110 à ce moment-là, comme la dynamo, pendant une dizaine d'années de plus, donc jusqu'en 1960 au moins, on avait l'électricité avec l'énergie hydraulique. En plus, si on regarde tous ces engrenages, on faisait tourner tout un système avec un système de poulies et de renvoi d'angle, de renvoi d'engrenage. On faisait tourner dans l'atelier une scie circulaire pour faire un petit peu de menuiserie. Ça allait jusqu'au fond de l'atelier pour faire tourner le trieur à grains qui servait à nettoyer le grain qui venait des champs directement, donc à le débarrasser des petites pierres avec des tamis de diverses granulométries, de le débarrasser des poussières avec une soufflerie, de le débarrasser de petits éléments métalliques avec des aimants, de le nettoyer avec des brosses, de façon à ce qu'il soit très propre pour faire de la farine panifiable, pour faire le pain. Avec ces engrenages-là, on avait dehors une scie à bûche pour couper des bûches pour le chauffage. Et on avait aussi une meule à aiguiser les haches, les couteaux, etc.
C'est vraiment le moteur de la maison, en fait.
C'est le moteur de la maison et c'est l'énergie hydraulique qui nous faisait tourner tout ça. Et même en plus, mon père, qui était très ingénieux et très bricoleur, avait monté avec un système de bielle pour s'éviter, quand il était jeune, de battre le beurre à la baratte à la main. Il faisait tourner la bielle de la baratte avec le moulin. Comme quoi, avec l'énergie hydraulique, qui est une énergie propre, renouvelable tant qu'il y a de l'eau, non polluante parce qu'on fait tourner les moulins, mais on renvoie l'eau à la Nise telle qu'on l'a eue, et même peut-être mieux parce qu'en passant dans les roues verticales, horizontales, elle s'oxygène l'eau avec cette énergie hydraulique qu'on occulte maintenant, apparemment, on faisait tourner beaucoup de choses. Et dans certains endroits, il y avait même des séries beaucoup plus importantes, comme à Langlade, chez M. Fournier.
En amont, c'est une dérivation d'un cours d'eau, c'est ça ?
Alors, en amont, on a une dérivation à 600 mètres d'ici, à peu près, un seuil, une dérivation d'une partie de l'eau de la Nise vers le moulin par un canal qui fait donc à peu près 600 mètres et qui arrive à un bassin de rétention. Quand le bassin est plein, on a à peu près 250 mètres cubes d'eau qui stagne. Donc ça fait une pression importante pour les roues horizontales et ça permet d'avoir un bon réservoir pour la roue verticale.
Du coup, on ne peut pas avoir de crue ici finalement.
Si, des crues, il y en a. Il y en a eu, puisqu'en 1994, il y avait de l'eau jusque par là, à peu près.
40 cm de l'eau.
Oui, on voit la marque sur la porte. Ça fait même peut-être plus de 40 cm. Ça arrivait même fréquemment, jusque dans les années 1960-70. Petit à petit, le lit de la rivière s'est creusé, donc les crues sont beaucoup moins importantes. La crue qu'on a marquée ici date de 1994, qui est une crue quand même importante.
Ici, comme le disait Daniel, on est en fait ce qu'on appelle le canal ici en Occitan, on appelle ça plutôt le béal, qu'on retrouve très régulièrement. Donc c'est un béal sur la Nise. La Nise, elle prend sa source à 3-4 km d'ici, hein, à fond or. C'est au niveau du bassin de l'ancienne pisciculture de Langlade. Par contre, c'est pas la source, c'est une résurgence. En fait, la source de la Nise, elle vient de beaucoup plus loin, elle vient du Mont Lozère, un petit peu au-dessus du lac de Barandon. Et elle rejoint juste à côté le Bramont, qui lui vient aussi du Mont Lozère, mais qui contourne le truc de Balduc de l'autre côté. Voilà. Et donc, ce fameux béal rejoint en près, on appelle ça une gourgue, hein, ce fameux petit bassin dont parlait Daniel, qu'on peut aussi appeler ici gourgue, qui est un terme que l'on retrouve même dans la partie Cévenole.
On va arriver à la fin de cette émission. Daniel, vous vouliez dire un mot sur le droit d'eau, sur les droits d'eau ?
Oui, je parlais tout à l'heure d'énergie hydraulique. Donc on a vu qu'ici, on faisait tourner beaucoup de choses avec l'énergie hydraulique. Et j'en profite pour dire quand même qu'en ce moment, les petits moulins ont beaucoup de difficultés avec l'administration qui applique un peu avec beaucoup trop de zèle une loi qui s'appelle continuité écologique et qui consiste à vouloir supprimer tous les barrages, tous les petits barrages ou toutes les petites obstacles sur les rivières. S'ils suppriment les obstacles, s'ils suppriment les barrages, ça supprime les petits moulins. Alors qu'une étude récente de la fin de l'an dernier par des cabinets indépendants ont démontré que en France il y aurait 36 000 petits moulins exploitables pour faire de l'électricité et que ces 36 000 moulins étaient équipés non pas de dynamo comme on a vu là qui date du siècle dernier mais de matériel moderne, on pourrait supprimer une centrale nucléaire et subvenir aux besoins électriques d'1,3 million de personnes. C'est d'autant plus dommageable qu'on est à une période où on parle de transition énergétique et que ce serait peut-être une bonne piste que d'essayer d'exploiter tout ce qui peut être exploitable sur les petits ruisseaux. Supprimer les obstacles, supprimer les seuils de moulins a un autre impact important en ce moment. On s'est aperçu, il y a eu beaucoup de barrages détruits, notamment en Normandie. Et sur certaines rivières où les barrages ont été détruits, l'année dernière, avec la sécheresse, les rivières se sont taries. Et même à certains endroits, ils avaient détruit le barrage et ils l'ont remis en ordre pour justement ralentir le courant et à faire des zones pour remplir les nappes phréatiques, des zones de calme, de rivières calmes, pour remplir les zones, les nappes phréatiques, plutôt que de laisser partir l'eau directement à la mer et assécher les rivières.
D'accord, merci Daniel. C'est dit au moins, on n'était pas forcément au courant de ces problèmes liés à cette continuité écologique qu'on voit en Lozère. Hein. Il y a des barrages qui ont été détruits, notamment au niveau de Barjac, un peu plus bas dans la vallée. Quelle est l'actualité du jour, Nelly ?
Alors l'actualité, c'est rendez-vous le 25 juin pour les journées du patrimoine de pays et des moulins. Voilà pourquoi on fait cette visite aujourd'hui, pour vous mettre l'eau à la bouche et venir donc au moulin de Sénaret à partir de 10h et surtout après à 14h parce qu'on va faire une visite, un rendez-vous avec une toute petite balade pour voir le Béal, la digue, pour une visite avec Daniel et le Pays d'Art et d'Histoire dans le cadre du Papillon Fringant, un projet porté par le Réel CPE de Lozère. Il y a d'autres moulins qui vont être ouverts à la visite également, visite libre, donc le moulin de Villeneuve, toujours sur la commune de Saint-Bauzile, et le moulin du Chéroux, sur la commune de Mont-Lozère-Égoulé. Donc ça, c'est des visites libres de 10h à 19h le dimanche 25.
Et on en a parlé tout à l'heure, le moulin à vent de la Borie, sur la commune d'Ur-la-Parade, qui également ouvre ses portes le 25 de 11h à 18h, pour visiter le moulin, cuisson et vente de pain, etc.
Alors je voulais ajouter que les moulins à eau qui sont ouverts, donc Sénaret, Villeneuve et Masse-d'Orcières, le sont sous le parrainage en quelque sorte de la Association lozérienne des Amis des Moulins, la LAM, fait partie de la Fédération française des sauvegardes de moulins, la FFM, donc qui coordonne un petit peu ces visites-là.
Peut-être une actualité supplémentaire sur la commune de Saint-Bauzile. On sera aussi à Saint-Bauzile cet été pour un concert à l'église du Falisson.
Oui, donc cette année on vous invite donc à venir donc à l'église du Falisson, magnifique petite église donc sur le cosse donc de Sauveterre, qu'il va produire.
Les musiciens d'Amuzel dans le cadre du festival musical du Pays d'Art et d'Histoire, avec toujours le même principe. Il y aura une courte présentation de la commune et de l'édifice en amont du concert.
Et un apéritif par la suite.
Voilà.
Offert par la commune.
Entrée à la libre participation.
Une anecdote pour terminer cette émission ?
Comme d'habitude, pas une, mais deux.
Est-ce que tu connais l'histoire de Jean de Florette ?
Oui.
Eh bien, figure-toi qu'on a un Jean de Florette local, ici. Alors, on est dans la vallée de la Nise. La Nise est un affluent du Bramont. Eh bien, le Bramont a une spécificité, c'est qu'il s'écoule d'un côté vers Saint-Étienne-du-Val-d'Aunès et de l'autre vers Ispagnac.
D'un côté le Lot, d'un côté le Tarn.
Et donc, malheureusement, cette spécificité qui est très rare va créer des conflits entre Ispagnac et Saint-Étienne. Ils vont se disputer les droits d'eau parce que quand l'un prend l'eau, l'autre versant ne l'a pas. Et donc, on a des conflits qui sont répertoriés dès 1809 dans des archives familiales locales, la propriété des Combes, qui nous montre alors en fait tous les conflits qu'il va y avoir sur là-dessus et qui est... On sait qu'il y a un assassinat en 1918 d'un paysan des Combes qui était venu plusieurs nuits de suite détruire le barrage édifié sur la rivière par un paysan du plateau supérieur afin d'irriguer ses prairies. Donc voilà, Jean de Florette, c'est ici aussi.
Mal lui en a pris.
J'en ai une autre anecdote un peu dans ce style-là, mais beaucoup moins tragique. Ici, Villeneuve et le Mas d'à côté, on avait un béal commun pour arroser les prés. Et en 1881, il y a eu un différend entre le meunier, qui s'appelait Monsieur Maliche à ce moment-là, mais qui était un ancêtre des Vitrolles, et le paysan de Villeneuve qui s'appelait Oziol, parce que Oziol prenait toute l'eau et le moulin n'avait plus d'eau pour faire tourner. La machinerie. Et donc il y a eu des plaintes, ça s'est quand même bien fini, parce que le petit-fils de M. Oziol a épousé la petite-fille de M. Maliche.
Voilà. La guerre de l'eau, et je crois que c'est pas fini, ça va peut-être même s'accentuer dans les prochaines années. Caro, une dernière anecdote ?
Oui, et est-ce que tu as déjà entendu parler de disparitions inquiétantes ?
Dans le Val d'Aunès ?
Non, pas du tout.
Eh bien, il faut savoir que le 17 novembre 2003, il y a eu le creusement d'un avène en plein milieu de la rivière, donc du Bramont. C'était un trou béant qui faisait 10 mètres de large et 12 mètres de profondeur, par lequel, du coup, se sont perdus l'eau du Bramont. Et ce qui fait qu'un kilomètre plus loin, l'eau avait totalement disparu.
Et on a retrouvé de l'eau du Bramont dans la Nise. Donc elle a circulé sous Balduc.
Et d'où il vient ce trou béant? Comment il est arrivé là?
Ben, on est sur un milieu calcaire, hein, les avennes sont très récurrentes ici. Et d'ailleurs, il y a une très belle étude qui a été faite par le BRGM sur le Cosméjan pour étudier le parcours souterrain de l'eau, qui est un vrai mystère et qui est assez complexe. Mais voilà, en tout cas, cette avenne s'est rebouchée naturellement lors de la crue du 3 décembre 2003.
Eh bien, merci Didier, merci Daniel, merci les filles. Je ne vous demande pas où on va la prochaine fois, c'est en septembre, c'est dans 2-3 mois. On verra bien, ça sera la surprise.
Ouais, ça sera la surprise. Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé. Parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mande et Lot en Gévaudan et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Lozère.